Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h43, merci de votre fidélité au Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, le petit déjeuner de l'actu. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel vous appellent bien sûr au 0826-300-300. Et qu'est-ce qui fait parler ce matin? La revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, il y a une question qui est à la une du Parisien aujourd'hui en France et que se posent beaucoup de parents, notamment sur les cantines scolaires. Est-ce que ce sont des clusters en puissance?
Oui, le Parisien aujourd'hui en France croit avoir la réponse, puisque pour eux, c'est clairement oui, alors que le taux de positivité au Covid-19 explose, notamment chez les enfants. Une situation qui inquiète, vous le disiez, les parents, mais aussi les enseignants. Et ce, malgré pas mal d'aménagements mis en place depuis quelques semaines. Pas d'aliments proposés en vrac, balisage des sens de circulation, aménagement des plages horaires ou encore aération plus abondante. Mais rien n'y fait. Le constat est là. On sait que 44% des enfants infectés le sont par d'autres adultes dans le cas de la cellule familiale. Mais quid des 56% restants? C'est la question que se pose un pédiatre dans le Parisien. Lui, il a fait le choix de retirer ses deux ados de la cantine. Pour autant, le sujet n'est pas simple. On s'est aussi rendu compte pendant le premier confinement, notamment que la cantine, parfois, c'était le seul repas correct pour certains enfants. Dossier en tout cas retrouvé ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France.
Ah oui, et pendant ce temps-là, la Provence évoque la traque du mutant.
Oui, parce que c'est vraiment l'histoire d'une traque. Hein, ou comment l'histoire de Marseille a déclaré la guerre au variant anglais, beaucoup plus contagieux, du Covid-19. Une guerre de mouvement dans laquelle le bataillon des marins-pompiers de Marseille a peut-être réussi à mettre KO un cluster familial explosif en moins de 48 heures. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans l'édito de la Provence ce matin. Récit de ces dizaines de marins-pompiers qui, aux aurores, après avoir retracé les cas contacts, ont investi 5 résidences des quartiers sud et est de la ville dimanche matin pour mettre à mal ce variant anglais donc dans Marseille.
Crise sanitaire qui fait également la une de la Dépêche du Midi avec ce titre, ça passe ou ça casse.
Ben oui, puisque cette semaine, c'est une semaine cruciale en France avec l'hypothèse d'un reconfinement strict qui n'est pas écarté. Tout va se jouer en fonction de certains chiffres, les chiffres notamment de la circulation du virus après les fêtes de fin d'année. On devrait être fixé cette semaine. Et puis aussi, les chiffres, on en parlait à l'instant, du variant britannique, dont le nombre de foyers se multiplie ces derniers jours.
Oui, et puis il y a un autre sujet dans Libération. Un large dossier sur les hautes protections, entre guillemets, d'Olivier Duhamel.
Mais oui, puisque de Sanary à Saint-Germain-des-Prés, l'universitaire, au fait de sa puissance, était constitué, nous dit Libé, un réseau de connaissances et d'obligés qui, par amitié ou alors par intérêt, ont choisi de le soutenir malgré ses agissements incessieux. Un témoignage notamment dans Libé, celui du directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorne, qui raconte « Olivier m'a appelé le 3 janvier pour me le dire, donc tout récemment, avant que ça éclate au grand jour. Il n'a pas nié ni cherché à minimiser. Il m'a dit qu'il avait fait des choses affreuses. Dossier complet donc à retrouver ce matin dans les colonnes de Libération. »
Merci à vous Benjamin Glaise. On poursuit avec Yann Marek, rédacteur en chef de Midi Libre, qui est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Patrick, bonjour à tous, meilleurs vœux.
Et oui, tous nos vœux également donc à tous les lecteurs de Midi Libre, tous les lecteurs et puis également tous les gens qui travaillent à Midi Libre, bien sûr. Alors, parmi les sujets à la une, la prime à la rénovation qui est ouverte à tous.
Oui, parce que c'était le nouveau dispositif qui permet, sans condition de ressources, alors la liste est longue, chaudière, chauffe-eau, isolation des combles, ventilation, chauffage solaire, isolation des murs, des huisseries. Tout ça ouvre droit à des primes et souvent à des remboursements qui permettent d'engager des travaux. Et hier, nous sommes allés justement voir un professionnel qui nous a un petit peu décortiqué l'ensemble de ces primes. Et on s'aperçoit que sans condition de ressources, pour des revenus qui sont parfois moyens, on peut être financé jusqu'à au moins 50%. C'est énorme sur des factures qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros.
Oui, alors tout dépend des conditions quand même un petit peu de revenus, quoi. Hein, c'est ça,
oui,
non?
Et
des,
oui, des, et après, il y a des plafonds, oui. Effectivement. Vous avez raison. Alors c'est sans condition, mais en fait, il y a des plafonds.
Oui.
Plus vous gagnez, et c'est normal, moins vous allez bénéficier d'une prime importante. Et donc tout ça est régulé dans un tableau, et ça nous permet de pouvoir voir que il y a des primes qui sont attribuées à tous les foyers fiscaux de France. Ouais. C'est important parce que les professionnels nous disent que ça ouvre la voie à une régénération du marché qui jusqu'à présent, à cause du confinement, était un petit peu atone. Aujourd'hui, ça repart et ça repart très fort.
Oui, c'est vrai. Et puis, c'est un peu indispensable donc à la fois pour la transition énergétique, ça relance ce bâtiment, vous avez raison, Yann Marek. Et puis, surtout, ça peut diminuer à terme, évidemment, la facture. Quand on voit que, par exemple, l'électricité, je voyais des chiffres ce matin, a bondi de 50% en quelques années, d'où la facture de plus en plus conséquente. Merci.
Absolument.
Merci Yann Marek. Hein. Donc, c'est à lire ce matin. Dossier très instructif parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent justement à cette prime à la rénovation et surtout à engager des travaux. Donc, ils auront toutes les solutions ou en tout cas un aperçu à travers votre dossier.
Et dans un instant, le petit déjeuner de l'actu avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel, on reviendra sur la vaccination et le plan de relance. Restez là, 8h48.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est le petit déjeuner de l'actu ce matin. Alette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel, vos appels comme tous les matins. 0826-300-300 et on va revenir sur ce plan de relance.
Patrick Roger. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a évidemment Twitter et Donald Trump qui continuent de faire causer. On l'a évoqué avec Elisabeth Lévy, on y reviendra peut-être. Il y a ce plan de vaccination. Il y a les hypothèses autour du couvre-feu 18h au niveau national ou de reconfinement. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie qui était notre invitée tout à l'heure, disait que finalement, globalement, notre industrie, notre économie ne s'en sortait pas si mal que ça, disait-elle, globalement, hein, parce que évidemment, il y a des secteurs, je pense à l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est la culture, l'événementiel et beaucoup d'autres secteurs qui ont quand même énormément de difficultés. Et malgré ça, elle dit, Yves de Cardrel, tiens, on va commencer par vous, qu'elle croit toujours quand même à ce, par exemple, ce rebond de 6% de croissance en 2021.
C'est son droit, tout à fait.
Oui, enfin, les ministres, et quand même.
Non seulement je ne conteste pas, mais je pense que c'est presque son devoir d'y
croire.
Parce que elle doit, pour inspirer la confiance en économie, contrairement à ce que disait Marx, il n'y a pas que le capital et le travail, il y a aussi la confiance qui est un élément important. Mmh. Et la confiance ne peut venir que d'en haut, des dirigeants. Et donc, il est important
de marteler
de la
ça.
Part d'une ministre notamment chargée de la relance, de dire qu'elle croit au rebond économique. Ça, c'est une chose. Ouais. Moi, de plus en plus d'économistes, je le disais hier, doutent de ce rebond, ouais. Qui serait de 3% au premier semestre et de 2% au second semestre, et ce qui, en cumulé, ferait 6%, puisque ce sont des pourcentages, donc on arriverait à 6% de croissance acquise. Ce qui est sûr, pour revenir sur ces propos, c'est que l'industrie, effectivement, résiste bien, oui. a beaucoup mieux résisté que les services jusqu'à présent, et continue de bien résister. Notamment parce que lors du deuxième confinement, on n'a pas fermé les usines, alors qu'au premier lors du premier confinement, on avait fermé les usines. Le seul bémol que je donnerais à ces propos, oui. C'est l'investissement. C'est que l'industrie, il faut en permanence faire des investissements d'innovation et des investissements de maintenance. Et que là, les investissements sont au ralenti parce que les chefs d'entreprise veulent y voir plus clair et que pour l'instant,
Elisabeth, oui, c'est vrai.
Les investissements ne sont
Elisabeth
pas au rendez-vous.
Et Arlette, et ensuite vos appels. Hein. Oui.
Moi, j'ai beaucoup moins de lumière qu'il.
Oui,
mais
oui.
Deux choses.
Non, mais je voyais que ça vous fait
deux
réagir.
Remarques. La première, c'est qu'on voit bien déjà qu'il va y avoir deux France, hein, quoi qu'on pense de la suite, que ces 6% vont être réalisés ou pas. Si vous voulez, un chiffre global, vous l'avez dit, Patrick, ça nous dit rien. Il y a plein de gens qui entendront ce chiffre global se disant, oui, mais pour moi, c'est moins 10%, hein, ou moins 20%. Donc, il va y avoir deux France, celle des indépendants, notamment, qui vont, je pense, subir pendant assez longtemps le contre-coup. Ça, c'est la première remarque que je ferai. Hein. Macroéconomie nous dit pas tout. La deuxième, j'ai pas de lumière non plus, mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire que tout cet argent dépensé, si vous voulez, tout cet argent magique qui a été mis dans l'économie, et c'est très bien, hein, tout le monde félicite le gouvernement français pour ces mesures, les restaurateurs louent Stéphane Manigault, n'arrête pas de célébrer Bruno Le Maire par opposition à Olivier Véran. Mais moi, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'on va s'en sortir sans payer plus d'impôts. Ou alors, je ne sais pas si c'est par l'inflation qu'on va s'en sortir. On a un endettement, je pense, qui a beaucoup, beaucoup augmenté pendant cette période. Donc, je serais un peu surprise qu'il n'y ait aucune conséquence de cela. Voilà.
Ah bah, il y en aura
mais forcément. Peut-être.
Oui. Il y, en aura forcément. Bon, en même temps, c'est vrai que, Arlette Chabot, vous qui connaissez bien les politiques, ils ont besoin d'essayer d'instiller de la confiance. Parce que.
Il y a surtout une telle défiance que, franchement, il faut essayer. Mais en même temps, c'est vrai qu'à la sortie du premier confinement, il y a eu un rebond. C'était reparti. La confiance, c'est aussi la volonté des Français de consommer. Ouais. Ça sera très important. Car on avait vu tous ceux qui avaient effectivement économisé pendant le premier confinement. L'argent, il faut investir, il faut avoir envie, si les restaurants finissent par ouvrir, de retourner au restaurant, de voyager, de prendre l'avion, d'aller à l'hôtel, etc. Bon, maintenant, l'industrie, c'est vrai qu'elle continue, mais il y a une grande partie aussi d'aide. Et puis, il y a toutes les entreprises qui, effectivement, sont sous perfusion. Ouais. Il y a moins de faillites d'entreprises aujourd'hui qu'il n'y en avait l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'elles sont aidées.
Et on verra les dégâts après la tempête, quoi.
Voilà, on va voir les dégâts après la tempête. Ouais. Et ce sera un choc économique, forcément. Il y a des secteurs, il y a l'aéronautique, évidemment aussi, qui est touché. Il y a l'automobile, 25% de moins de ventes. On a appris le chiffre la semaine dernière. Il y a des tas de secteurs qui seront touchés. Et c'est vrai qu'après, quand la mer se sera retirée, eh ben, comme on dit, sur la plage, eh ben, on verra les dégâts.
Oui, oui, absolument. Yves de Cabrel ?
Non, je n'ai rien à ajouter à ce que disait Arlette Chabot. Il y a un proverbe, un adage, pour reprendre ce que disait Arlette, qui dit que lorsque la mer se retire, on voit ceux qui nageaient sans maillot.
Exact.
Et c'est un peu ce qui va se passer, parce qu'on va, comme elle le disait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sous perfusion et sous morphine. Mmh. Et à un moment, il faudra bien débrancher cette morphine, cette pompe à morphine. Ouais. Notamment pour faire le lien avec ce que disait également Elisabeth, on a dépensé beaucoup d'argent magique. Oui. Et cet argent magique, c'est cette morphine. On arrive au bout, là. À fin juin, les principales aides vont s'arrêter, le chômage partiel va s'arrêter.
Témoignage au 0820. Voilà. Oui, Yves, témoignage au 0826-300-300. Il était là, ça, Jean-Pierre.
Il a attendu.
On fait une légère pause. On se retrouve dans un instant et on va revenir. On va revenir sur la vaccination, sur aussi les étudiants qui n'ont pas le moral. Vous l'avez vu, il y a eu un certain nombre d'études, de témoignages. Nous serons avec une étudiante qui sera avec nous juste après le flash dans un instant de 9h. Restez avec nous.
Et en attendant, on fait la météo.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h02, bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio et le petit déjeuner de l'actu ce matin avec nos éditorialistes du jour, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy de Cardrel, et vos témoignages ce matin avec Jean-Pierre qui nous appelle de l'Essonne.
Oui, alors juste d'un mot aussi, parce que pour les auditeurs qui pour rester avec nous là tout à l'heure, Jacques Julliard sera avec nous à partir de 9h15, 9h20, historien, essayiste, éditorialiste à Marianne, qui a écrit sur De Gaulle et les siens, et qui revient et qui a une vision de la politique française évidemment extrêmement percutante et pertinente, et il sera avec nous dans un quart d'heure et vous pourrez dialoguer en fait avec lui. Alors, pour l'instant, c'est Jean-Pierre.
Mais c'est Jean-Pierre qui est là. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour à vos auditeurs.
Oui, bienvenue. Jean-Pierre, alors qu'est-ce qui vous fait réagir ? On évoquait l'économie là tout à l'heure, le plan de relance. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, vous, ou pas ?
Alors, écoutez, en tant que chef d'entreprise et de l'industrie, vous en parliez il y a quelques instants. Oui. Une entreprise de moins de 10 salariés aujourd'hui a, semble-t-il, mieux résisté, je dirais, que les entreprises de 25 salariés et plus.
Oui.
Plus adaptable. On a eu beaucoup moins d'aide, hein, ce qui nous a aussi obligés tout de suite à trouver des solutions. Ça n'a pas été facile, mais il s'est avéré que nous avons eu une excellente année, une année historique. Parce que beaucoup de nos clients qui partaient à l'étranger se sont rabattus sur le local et ont réappris ce qu'était le tissu industriel autour d'eux. Et en ce qui me concerne, je vais pas trop me plaindre, mais l'argent n'est pas gratuit et j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent qu'on n'aura jamais à rembourser les aides qui ont été données. Ça, sincèrement, ça me fait peur parce que l'emploi régresse. Et il n'y a plus de perspective pour nos jeunes.
Ouais.
Ça reste un problème dont on ne parle pas aujourd'hui. Et je pense que le Covid est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt n'est pas en si bon état que ça, en fait.
Oui, c'est ça. Vous, c'est dans quel secteur, sans être trop indiscret ?
Dans la métallurgie, la mécanique de précision, donc tout ce qui est attrait à des secteurs qui marchent pas très bien d'ailleurs, hein, l'automobile, l'aéronautique, mais il y a aussi, vous en parliez, de la maintenance, et de la maintenance, il y en a partout, quel que soit le métier, et l'industrie malheureusement a été dénigrée pendant des décennies, et aujourd'hui, ce sont des métiers dont on s'aperçoit qu'elles font tourner les hôpitaux, l'industrie bien sûr, l'automobile, mais aussi les métiers du bois, du service, du textile, donc voilà, on a eu un appel de la part de nos clients que nous n'avions plus, depuis plusieurs années.
Ouais, non, mais ça, c'est intéressant parce que quand on parle de la relocalisation avec vous, c'est très, très concret. Et c'est vrai que pendant des années, hein, Arlette Chabot, Yves de Kerdrel, Elisabeth Lévy et Jean-Pierre restaient avec nous, on disait non, mais on n'a pas besoin de fabriquer d'industrie en France, on va acheter à pas cher à l'étranger. Et résultat, bah, nos emplois ont fondu et notre part de l'industrie est à peu près à 30%, alors qu'en Allemagne, elle est à beaucoup plus, au-delà, je crois, entre 20 et 25%. Yves de Kerdrel sera peut-être plus précis que moi. Et résultat, aujourd'hui, on est en train, c'est peut-être les bienfaits, entre guillemets, de la crise. On redécouvre certaines vertus de pouvoir produire à côté de chez soi, et Elisabeth Lévy, et puis d'avoir de l'emploi, quoi, derrière, non ?
Moi, je vous trouve très optimiste, hein, parce que, en fait, il y a beaucoup d'idéologie. Non, mais il y a beaucoup d'idéologie dans cette question, si vous voulez, dans l'idée de la mondialisation heureuse, que mettre des contrôles aux frontières ou des restrictions au commerce mondial, ce serait vraiment pas bien, ce serait un signe de repli sur soi. Et quand je vois, si vous voulez, les difficultés que nous avons à instaurer, nous, des contrôles aux frontières, hein, c'est vraiment, on est les derniers à le faire, et on le fait vraiment très timidement, je ne suis pas sûr que après cette crise, si vous voulez, on va remettre en cause ce dogme du libre-échange merveilleux, alors que, comme vous l'avez dit, notre désindustrialisation est quand même très liée à cela.
Oui.
Il n'y a pas que ça, Yves de Kerdrel.
Oui.
Il y a pas que ça.
Bien sûr, vous avez raison, cher Yves.
Il y a notamment les questions de compétitivité et les produits qu'il peut fabriquer en France étaient traditionnellement, et notre interlocuteur peut nous le dire, plus cher que ceux fabriqués en Allemagne, où l'industrie reste une force. Et si l'industrie, d'ailleurs, est restée une force en Allemagne, c'est pour ça que l'Allemagne a mieux encaissé le choc économique de la crise sanitaire que nous-mêmes. Et le pire, ça a été la Grande-Bretagne, où l'industrie a maintenant une part résiduelle qui est inférieure à 10% de la richesse nationale. Et Emmanuel Macron a décidé de quelque chose qui est très, très, très positif dans le projet de loi de finances pour 2021, c'est la baisse des impôts à la production que demandait le MEDEF depuis des années, et beaucoup d'impôts à la production qui concernent notamment les industries, les industriels, qu'ils soient petits ou gros, vont disparaître, et ça va améliorer la compétitivité de l'industrie française. Et ça, c'est bon, libre-échange ou pas, fermeture ou pas des frontières.
Juste un mot, c'est la crise, c'est toujours le révélateur des faiblesses, des fragilités. Tout le monde a découvert que l'industrie du médicament, on avait tout laissé filer, et on voit aujourd'hui, on est dans une situation de handicap. Donc, retour en arrière et peut-être relocalisation d'un certain nombre effectivement de fabrication et de production en France. Donc ça, c'est positif, c'est pas du rêve. Hein. Je veux dire, c'est une réalité. C'est-à-dire, quand on n'a pas de médicaments, qu'il faut aller les acheter ailleurs, ou qu'on considère que c'est mieux parce que c'est moins cher, non, c'est pas possible. Donc peut-être qu'il y a une réflexion, il y a des évolutions. Il faut écouter sur toute la séquence Bruno Le Maire et les déclarations de Bruno Le Maire pour bien comprendre qu'il est réaliste, qu'il est plus dans le déni et que l'idéologie du monde merveilleux des échanges, c'est un peu terminé et ça va être en tout cas corrigé.
Écoutez, nous suivrons ça. Merci en tout cas à Jean-Pierre qui nous appelait au 0826 300 300. Témoignage maintenant, Cécile, de Laura. Hein.
Oui, parce que plus de cours en présentiel, le moral des étudiants est un peu en berne, hein, sur le plan affectif, psychologique et physique. Et Laura est avec nous, étudiante en master 2 de philosophie à la Sorbonne. Bonjour Laura.
Bonjour.
Alors, la plupart des cours se font à distance pour vous, c'est ça ? Est-ce que vous avez eu un peu de présentiel ou pas ?
Alors non, j'ai eu un présentiel seulement dans les premières semaines de septembre, mais depuis, je suis jamais retournée à l'université.
Ouais. Comment vous vous organisez ? Comment vous le vivez ?
C'est vrai que c'est pas hyper évident d'avoir tout en distanciel. On a quelques Zooms, mais sinon, c'est beaucoup des PDF qu'on nous envoie. Donc on est vraiment en autonomie de manière quasiment totale, quoi.
Oui, c'est ça. Et, donc, et peu de contact avec les autres étudiants, parce que c'est souvent le charme aussi de la vie étudiante, c'est d'être en contact avec d'autres, quoi, pour pouvoir non seulement échanger, quoi, globalement.
Bah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a, en Master 2, on n'a pas beaucoup de cours, mais c'est vrai que ce sont des cours qui rythment notamment cette vie sociale et ces interactions qu'on peut avoir avec nos camarades de promo. Mmh. Donc là, les interactions sont réduites à quelques messages sur Facebook et autres. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident d'échanger sur nos cours et tout ça, ouais.
On dit que beaucoup sont touchés par la solitude, une forme de dépression, même ce qui est terrible pour la jeunesse. Est-ce que vous, comment vous le vivez et autour de vous, votre entourage, d'autres jeunes, d'autres étudiants?
Alors personnellement, je vis en colocation et je pense que c'est une grande chance de tous les étudiants qui sont en colocation cette
c'est
année
vrai.
Parce que je suis pas seule. En revanche, je connais plusieurs camarades qui se sentent extrêmement seuls, qui vivent dans des appartements assez exigus.
Oui.
Qui du coup, on a quand même une solidarité étudiante. Il y en a qui ont fait signe sur nos groupes Facebook, notamment, pour avoir des interactions et qu'on puisse échanger par message. Mais globalement, quand même, tout le monde souffre vraiment de cette vie sociale qui est quasiment réduite à néant, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que l'on vous dit? Vous pourrez retourner en cours ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas de décision véritablement de prise. La ministre souhaitait qu'il y ait une reprise des cours dans les universités, mais vous, par exemple, quelles sont les informations que vous avez de votre côté pour votre formation?
Oui, alors nous aussi, on en est resté sur la date de début février pour la rentrée. Actuellement, on est en vacances universitaires, mais c'est vrai qu'on attend encore des informations sur cette rentrée. On ne sait pas encore en fait si on sera en présentiel ou non.
Oui.
C'est vraiment l'incertitude.
Ouais. Et pour les examens, comment ça se passe?
Pardon. Ouais. Donc pour les examens, on a beaucoup de devoirs maison à rendre en fait.
Ouais.
Ça c'est vraiment sous cette forme. J'ai eu aussi des oraux par Zoom.
Ouais. Est-ce que vous sentez, Laura, une dégradation du niveau scolaire? Est-ce que vous vous sentez, vous, en dessous?
C'est vrai que moi, j'ai un peu réduit mes exigences aussi par rapport à moi-même sur mon travail personnel. Les cours à distance, c'est vraiment pas idéal. Donc j'ai décidé d'un peu repenser ce travail et de maintenant me concentrer sur les évaluations. Étant donné qu'on n'a plus ce plaisir d'aller en cours, je n'éprouve pas vraiment ce plaisir-là en étudiant toute seule et en lisant toute seule. Donc voilà. Après, les professeurs sont en général aussi plus tolérants sur leurs notations, sauf quelques-uns.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué.
C'est un vrai handicap. Hein.
Et Elisabeth, vous vouliez réagir en entendant Laura. Laura, restez avec nous. Et oui.
Bonjour Laura, j'ai deux questions en fait à vous poser. La première, c'est s'il faut trouver un bien dans un mal, est-ce que dans le fond, ça aide pas les étudiants à apprendre mieux à travailler seul? Ça, c'est ma première question, parce que beaucoup de profs, souvent, quand ils voient arriver les étudiants, ils disent ils savent pas travailler tout seul, donc dans le fond, vous y êtes obligés. La deuxième, je vous la pose en même temps, c'est qu'on a beaucoup critiqué les jeunes en général, si vous voulez, pour les fêtes clandestines, etc. Comment vous vivez ça? Est-ce que autour de vous, vous voyez beaucoup de gens qui ne respectent pas le confinement, les mesures barrières, etc., et qui font un peu n'importe quoi, ou est-ce que ça vous semble injuste, ces accusations?
Merci pour vos questions. Donc, pour la première question, je dirais que notamment pour le premier confinement, j'ai beaucoup travaillé, parce que voilà, il fallait travailler en autonomie, donc ça m'a comme beaucoup d'étudiants, je pense, vraiment appris à travailler en autonomie.
Ouais.
Après, c'est vrai que les cours sont aussi là pour soutenir ce travail personnel.
Vous avez raison,
il y a un rythme qui permet de soutenir, les travaux personnels soutiennent les cours et les cours soutiennent le travail personnel. Donc c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois, on est un peu essoufflé et on a du mal à trouver cette stimulation qu'on trouvait en cours. Ensuite, sur les fêtes clandestines, je dirais que c'est assez partagé. Moi, j'ai toute une partie de mes amis qui se retrouvent, mais toujours en respectant, par exemple, la limite de 6. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, la majorité. Et ensuite, il y en a d'autres qui respecte un petit
c'est
peu
six,
moins.
Et un autre, c'est 6 au mètre carré, quoi.
Ouais, c'est ça.
Non, mais oui, mais c'est vrai.
C'est la même chose pour les adultes. Hein.
Oui, ouais, c'est la même. Non, mais oui, il n'y a pas oui, que. Il faut
mais
pas.
La vie étudiante, normalement, c'est quand même. Je veux dire, c'est quand même vraiment difficile de ces années-là qu'on voit passer. Je veux dire, on ne les a qu'une fois, donc c'est vrai que c'est difficile.
Ah ouais,
oui,
ouais.
Après, c'est vrai qu'à Paris, les étudiants n'ont pas des apparts qui permettent d'accueillir.
Oui,
100 personnes, quoi. Donc,
c'est vrai. Bien sûr, c'est autre chose. Bon, alors maintenant, l'une des questions, hein, Laura, vous pouvez rester avec nous, on va terminer sur ce sujet. C'est ce qui va se passer pour la suite. Est-ce que vous allez pouvoir aller en cours de nouveau ou pas ? Arlette Chabot, il y a 2-3 scénarios qui sont sur la table. Couvre-feu à 18h étendu sur tout le territoire, tous les jours. Couvre-feu aussi à 18h sur tout le territoire. Et confinement le week-end, on va rester chez vous, et un reconfinement total. Un peu comme on l'a vécu il y a de cela quelques semaines. Il n'y a pas de tendance qui l'emporte.
Je pense surtout qu'on n'échappera pas à des mesures plus sévères. Ça, il faut quand même que tout le monde l'ait compris, parce que des chiffres arrivent, Noël, le jour de l'an, bon, même si beaucoup ont fait très attention, notamment même aussi chez les jeunes, visiblement. Il y a effectivement une contamination, et puis il y a la menace du variant anglais. Donc, au fond, on voit bien, le critère, c'est les hospitalisations, les services de réanimation, la saturation ou pas de ces services. Donc, il y a au minimum, évidemment, on s'y attend, cette semaine, annoncée jeudi ou un peu plus tard par le gouvernement. On évite absolument le confinement, ce que demande tout le monde, mais visiblement, on n'échappera pas cette semaine, la semaine prochaine, à un couvre-feu étendu. Après, vous l'avez dit, il y a deux versions, quoi, hein, c'est 18h partout. Confinement après peut-être le week-end, en tout cas, franchement, un couvre-feu à 18h, même le week-end, c'est quand même un peu lourd, parce que la semaine, on rentre
bien sûr.
Travail, mais le week-end, on espère quand même un petit peu sortir. Donc,
sortir, bouger, oui.
Mais je pense qu'on n'y échappera pas, parce qu'au fond, le gouvernement a fait beaucoup d'erreurs, mais il avait réussi une chose, c'est-à-dire décider le reconfinement. On s'en souvient assez tôt par rapport aux autres pays européens, ce qui nous avait permis de passer un Noël tranquille.
Ouais.
Donc là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à anticiper plutôt que d'être toujours en retard, ce qui est quand même ce qu'il fait généralement sur tous les sujets, ce gouvernement.
Ouais, pour être tranquille, il a été tranquille pour beaucoup, Noël. Et
oui, mais en même temps, on a pu circuler pour Noël. Alors,
on regardait en Italie,
on n'avait pas le droit de sortir.
C'est vrai,
en Allemagne, on a fermé aussi pour Noël. Donc franchement, c'était plutôt mieux.
Allez, merci Elisabeth Lévy, Arlette Chabot, Yves de Kerdrel, à vous Laura, bon courage à vous hein, Laura, on vous rappellera, et puis tous les auditeurs qui ont voulu nous appeler ou qui ont réagi, 0826-300-300, dans un instant c'est Jacques Julliard qui sera avec nous, et on ira en Israël pour voir, tout à l'heure à 10h moins le quart, pour voir comment ils ont opéré pour réussir évidemment à limiter, et avec un plan de vaccination complètement dingue.
En attendant, on a une gagnante ce matin, Patrick. Nous avons Louise qui est avec nous, bonjour Louise.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Alors,
je suis ravie. Ravie d'avoir gagné.
Non.
Attendez, c'est pas fait.
Je ne vous l'ai pas dit encore. La méchanceté. Si, vous avez gagné, bien sûr, Louise. Et on est ravis de vous l'offrir, ce bon d'achat de 150 euros. Alors, vous allez pouvoir l'utiliser sur monalbumphoto.fr. Oui. Vous allez pouvoir vous faire des livres photos, des calendriers, immortaliser vos photos sur du papier. Enfin, voilà, 150 euros, c'est quand même une belle somme.
C'est monalbumphoto.fr.
Et vous allez faire des photos de Patrick Roger et faire un album, c'est ça ? C'est ce que vous vouliez faire.
Hein. Par exemple.
Je peux vous en envoyer une si vous voulez, mais enfin bon. Il y en a d'autres. Quoi.
Hein ouais. En particulier, l'Aubrac qui est tout près de chez moi en ce moment est magnifique.
Très bien.
Vous êtes où précisément, vous, Louise ?
À Marcillac, dans l'Aveyron.
Oui, d'accord.
Oh là là, c'est joli.
Et l'Aubrac est à une petite heure, et là, en ce moment, il neige. Là, les toits sont tout blancs.
Alors, il doit y avoir des paysages magnifiques.
En partant dans 5 minutes, on peut être chez vous pour l'heure du déjeuner. Ça vous va ou pas ?
Écoutez, je vous ferai goûter de l'aligot et de la
salade. Oh là là, c'est pas possible. Louise,
on embarque à Arlette Chabot.
Oui, lève le doigt.
Ouais.
Je suis pour.
Alors, j'en profite pour dire que bon, je suis fidèle auditrice depuis des années,
merci.
Et plus particulièrement depuis le confinement. Et j'ai quand même une affection particulière particulière pour le regard libre d'Elisabeth Lévy que je ne rate jamais.
Ah, voilà, d'accord. Bah voilà, Elisabeth. Bah on l'amènera aussi pour la Ligo, Elisabeth.
Oui, d'accord. On va vous la laisser en stage. pour la faire épaissir un tout petit peu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Louise, et merci de votre fidélité à Sud Radio. On vous embrasse et on vous souhaite une très belle année.
Et une très belle année également à vous. Merci
beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir joué avec nous. On revient dans un instant. Il est 9h19. À tout de suite.